Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui à Radio Clapas, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Lavarec. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Lavarec, vous êtes l'auteur de la série de romans jeunesse et policiers, Les Carnets de Alinéa, dont l'épopée de la jeune enquêtrice a débuté en 2016 lorsque vous publiez le premier volet, Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, suivi du second carnet, L'affaire Stéphanie, en 2020.
Oui.
Écrivaine et professeur agrégé des sciences de la vie et de la terre en retraite, votre signature fétiche est Molisa.
Oui.
Lauréate au concours international littéraire des arts et lettres de France en 2019 et 2020 pour les sections contes, nouvelles et romans, vous nous présentez la troisième enquête de Alinéa sous le nom de Alali, disponible depuis octobre 2020 aux éditions Execo. Alors pour l'anecdote, est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire de votre pseudo Molisa ?
Alors Molisa, je m'appelle, mon nom de jeune fille est Molina et mon prénom est Isabelle. Donc depuis mon adolescence, je signais mes petites soies, peintures sur soie, Molisa. En plus ça me faisait rire parce que ça fait Mona Lisa. Mais ça a été pris. Par conséquent, oui, ça m'a été pris. J'avais un domaine, je ne l'ai pas renouvelé par négligence et quelqu'un d'autre l'a pris. C'est pour cela que maintenant Molisa, c'est avec deux L.
Ah d'accord, et j'avais lu que vous aviez mis un T aussi.
Oui, à un moment donné, quand j'ai publié le premier roman, comme j'avais été très surprise par ma négligence, donc je m'étais dit, tant pis, je vais rajouter un T. Mais c'est pas joli avec un T, fait Molisate.
Donc avec deux L.
Deux L, c'est mieux.
Et après une carrière dans l'enseignement, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
Eh bien, une chose toute simple, c'est que j'avais remarqué, aussi bien chez les enfants, les petits, parce que j'étais en IUFM, et donc j'ai pu me promener dans les classes, les petites classes, les collèges, les lycées, et même en IUFM, à l'université. Et je me suis aperçue qu'en fait, on ne faisait pas la liaison entre ce qu'on apprenait en classe et la vie quotidienne. Donc j'ai toujours essayé, avec la démarche scientifique, pour montrer que ce que l'on voyait, etc., ça pouvait être analysé et ça marchait pas, donc je me suis dit je vais écrire des romans, policiers en particulier, pour montrer qu'il y a toujours une relation entre ce qu'on apprend en classe et la vie quotidienne, parce qu'une enquête c'est de l'inquisition, c'est un peu une démarche, une méthode, enfin, scientifique absolument, avec des différences quand même, mais on a besoin des sciences, ne serait-ce que pour suivre les cours de police scientifique, etc. Voilà pourquoi.
Vous écrivez des thrillers pour les ados, les jeunes adultes, mais aussi pour les lecteurs plus âgés, confirmés en matière d'intrigue. Quelle différence y a-t-il entre ces deux publics ? La manière d'écrire change complètement ?
Oui, la manière d'écrire change complètement. Par exemple, pour les jeunes ados, il n'y a jamais de scène réelle d'amour, tandis que chez les adultes, il y a. Le vocabulaire n'est pas le même non plus. Et les réflexions philosophiques, bien qu'elles soient là, je m'y prends autrement. C'est un autre aperçu.
Et votre implication dans le monde littéraire est particulièrement riche avec la Société des gens de lettres, la SOFIA par exemple.
Oui.
Comment définiriez-vous votre engagement en tant qu'auteur, femme et engagée ?
Voilà. Alors en tant que femme et engagée, je fais partie aussi du CA, de la Charte. La Charte, c'est un organisme qui défend les auteurs et les illustrateurs pour la jeunesse. Donc pourquoi est-ce que je me suis engagée ? Tout simplement parce qu'un auteur est seul. Et faire partie d'une association, c'est déjà faire partie d'un collectif, ce qui aide. Ensuite, pourquoi féministe ? Eh bien, parce que j'ai toujours été féministe, premièrement, et ensuite, parce qu'il y a des différences, il y a du sexisme, il y a encore du harcèlement sexuel. Un auteur est faible, il est en début de chaîne. Donc, s'il veut un peu percer, parfois, il y a certaines personnes qui en profitent.
Isabelle Lavarec, votre profession vous a souvent amené à voyager, notamment en Algérie, en Martinique et à Tahiti.
Oui.
Quelle place accordez-vous à ces expériences dans votre univers littéraire, dans votre vie ?
Et aux Comores aussi.
Aux Comores.
Voilà aussi, oui. Alors, quelle place y a-t-il ? Eh bien, tout simplement, par exemple, le prochain carnet d'Alinéa.
Le volet 4.
Oui, le volet 4 va se passer aux Philippines. Et donc, j'ai pris un plaisir intense à les faire plonger et donc à voir avec l'œil que j'avais, avoir des activités que j'ai vécues. Donc, dans tous mes livres, il y a ce réel, ce vécu, avec mes émotions. Et par exemple, dans le dernier, pour les 9-12 ans, qui est Anaïs et Totoche au temps des pharaons, hein, c'est le dernier qui est sorti. Eh bien là, mes deux héros se promènent dans le Sahara. Et là aussi, j'ai vécu au Sahara. Par conséquent, j'ai eu comme eux aussi des problèmes, non pas de nourriture, mais j'ai vu des nomades manger des criquets. Le thé qu'on offre aux gens, on s'arrête et on offre du thé, etc. Tout ça, je l'ai vécu. Et eux vont le vivre aussi.
Aujourd'hui, la littérature, mais vous avez écrit de nombreux manuels scolaires. Qu'est-ce qui vous anime dans cet exercice, cet exploit même, on peut dire, parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver au bout d'un ouvrage?
Ce qui m'a amené à écrire au niveau des manuels scolaires, d'abord, on me l'a demandé. C'est Bordas qui me l'avait demandé. Ensuite, lorsque j'étais à Tahiti, les élèves d'école primaire en particulier devaient travailler sur la forêt de Fontainebleau alors qu'ils étaient dans un pays tropical. Avec une amie, on s'était dit, c'est quand même pas normal que ces élèves travaillent sur un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, à toutes les deux, nous avons fait un livre sur les tropiques qui a été pris par Nathan. Nathan est une très grande boîte, ce qui n'est pas très humaine. Au niveau des relations auteur-éditeur, oui, et CED, qui était une maison beaucoup plus restreinte, elle est moyenne, elle a même déposé son bilan, hélas, mais CED m'avait proposé, lors des nouveaux programmes, de faire avec une équipe, parce que pour les manuels scolaires, je les ai jamais fait seul, hein. J'ai toujours monté une équipe et je les ai dirigés, puisque j'étais en IUFM, donc en école normale, c'était plus facile pour moi. Mmh. Et par conséquent, nous avons travaillé en groupe, CED a pris nos manuels scolaires et ils ont très 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 bien marché. Et même ceux de Nathan, ils ont bien marché.
Et aujourd'hui, donc votre maison d'édition, c'est Execo.
Oui, petite maison.
Petite maison. Elle se veut comme un éditeur militant,
oui,
dont la collection des romans policiers représente la moitié de son catalogue, mais il vient des Vosges, dans le Grand Est. Alors pourquoi pas un éditeur local, vous qui êtes Montpelliéraine?
Eh bien, tout simplement parce que à Montpellier, je suis arrivée au moment de ma retraite. J'ai demandé, et c'est eux qui ont répondu, en particulier Laurence. Et je ne regrette pas, parce que les auteurs forment une vraie famille. Nous avons eu, et nous aurons encore, des visio-apéros. Là, nous avons été reçus vraiment comme des rois. C'était vraiment très familial, très convivial. C'était extraordinaire. Et déjà, il y a le deuxième salon qui est prévu pour l'année prochaine.
Et donc, Alali est le troisième volet de la série de romans. Mais attention, spoiler, ce ne sera pas le dernier.
Non.
À l'origine, il ne devait pas s'intituler Alali, mais plutôt Cougar Destruction,
oui,
qui résumait plutôt bien l'intrigue, non sans ironie, on présume.
Oui. Et vous savez pourquoi j'ai changé? Parce que j'avais écrit ce livre 5 ans avant, comme je fais souvent. Je n'écris pas un livre et je l'envoie à un éditeur. Je le laisse dans un tiroir pendant un certain temps. Puis après, je les reprends. Je le fais relire aussi, hein. Et quand tout est terminé, quand je suis prête à envoyer le livre à l'éditeur, quand j'ai été prête, je me suis dit, après tout, je vais voir mon titre s'il n'a pas été pris. Et il avait été pris, pas mon titre spécialement, mais en tout cas, du Rififi chez les Cougars, etc., par un DVD porno. Et donc, je me suis dit, non, pas pour les ados.
Ah non, 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 ça collait pas.
Non. Donc, Alali, ça correspond aussi à Alali, parce que c'est la chasse. Quand il y a la chasse, ça court.
Mm-hmm.
Voilà, on crie Alali, ce sont les animaux qui courent après la biche, d'après la proie, et ensuite, ils vont l'attraper, l'encercler, l'attraper. Et c'est un peu ça ce qui se passe, hein, pour les personnes âgées. Le tueur en série,
oui,
va
poursuivre les proies.
Les personnes âgées de 65 ans, oui.
Et donc, Alinéa, l'héroïne, évolue au fil des carnets, d'abord en troisième, puis seconde, et aujourd'hui en première dans le carnet 3. Qu'est-ce qui la caractérise, cette jeune fille? D'abord, sa pugnacité.
Oui. Elle est déterminée, elle est pugnace, elle est cultivée aussi. Mais ce qui la détermine, c'est aussi sa relation avec sa grand-mère. Autant elle peut être tendre, douce, compréhensible avec sa grand-mère, autant avec les tueurs, elle peut être pas cruelle, mais elle ne les loupe pas.
Alinéa et sa grand-mère vivent dans une ville balnéaire du sud de la France.
Ouais.
Isabelle Labarec, vous qui êtes Montpelliéraine, je le rappelle, êtes attachée à ce territoire. Pourtant, on ose imaginer que dans des paysages idylliques comme les Calanques, on y trouve un tueur en série.
Oui, sûrement. Il doit y avoir des tueurs en série. Mais là, en fait, si vous remarquez, je n'ai pas donné le nom de Montpellier. Mais on peut reconnaître certains paysages, comme par exemple la station balnéaire à côté, etc. Elle évolue dans un ensemble qui est très commun, c'est-à-dire des gens qui entourent une piscine. Par conséquent, c'est quelque chose qui peut se mettre tout à fait dans notre région. Mais dans leur réflexion, elle est méditerranéenne, puisque moi je suis méditerranéenne. Je suis de Montpellier. Donc, est-ce qu'il peut y avoir autre chose dans les Calanques? Oui, bien sûr. Mais non, mais moi je voulais un paysage que je connaissais, un paysage que j'aime. Voilà. Donc j'ai situé là-dedans. Et le tueur, lui, sa grand-mère est originaire du Sud. Mais pas lui. Il est un métis entre une maman qui était Zoreille et un Antillais. Par conséquent, il a à la fois un papa qu'il a jamais vu, pratiquement, et une maman, j'ai dit le papa antillais, non, c'est la maman qui est antillaise, et le papa qui est un militaire qu'il n'a jamais, pratiquement jamais vu. C'est vrai qu'il a une petite dent contre ça. Puis surtout, son beau-père avait de drôles d'habitudes quand même. Et avec les morts, il était embaumeur, mais quand il était avec les morts, il avait une drôle d'habitude, et il obligeait l'enfant à faire des choses inadmissible. Par conséquent, il a été un peu
traumatisé
pendant son enfance. Pour moi, c'est ce qui explique son devenir de tueur.
De tueur. Alinéa, c'est une jeune fille, presque une jeune femme, qu'on voit grandir donc enquête après enquête. Elle s'inscrit, selon vous, dans la génération d'aujourd'hui?
Je ne sais pas, je voudrais vous poser la question, et vous qui l'avez lue.
Oui, tout à fait.
Bon.
Mais c'est vrai que les hobbies, les passe-temps d'aujourd'hui, c'est pas autant qu'Alinéa, enfin c'est pas de la même manière, je dirais.
Oui, c'est vrai, mais j'ai voulu ça. J'ai voulu justement la faire extraordinaire, entre guillemets. C'est-à-dire ne pas la faire comme tous les ados, c'est-à-dire la musique, à l'écoute de la musique, mais pas forcément de la musique des jeunes. Elle est sur son téléphone, etc., mais pas forcément pour aller faire du TikTok.
Voilà, elle rentre pas dans les cases.
Sinon, elle est banale. Voilà. Et vous savez que sur Instagram, je viens de rencontrer une chroniqueuse qui a 13 ans.
Ah oui?
Et j'étais persuadée qu'elle avait au moins 18 ans. Parce que dans ses hobbies, elle est dans la vidéo, certes, mais elle écrit, etc., etc. J'ai été très étonnée quand elle m'a dit qu'elle avait que 13 ans.
Une maturité aujourd'hui qui se forme.
Oui.
Et elle est très mature, Alinéa. En parallèle de l'intrigue, l'occupation principale d'Alinéa est le théâtre. Vous-même êtes comédienne dans une troupe amateur. Que diriez-vous de ce rapprochement? Alinéa serait votre alter ego à son âge, ou bien est-ce simplement une volonté d'intégrer tout ce qui vous touche dans vos histoires?
Eh bien, elle pourrait effectivement être mon alter ego. Puisqu'elle aime bien travailler, elle est un peu à l'extérieur des courants ordinaires, enfin des courants de jeunes.
Elle aime écrire, c'est carré, comme un journal intime.
Voilà, elle aime écrire et elle a des relations avec sa grand-mère et qui sont tout à fait tendres. Et donc moi j'ai toujours eu des relations avec mes parents et toutes les personnes d'un certain âge, très compatissantes, très empathiques.
Dès les premières pages, le lecteur est plongé avec adresse dans un tourbillon mêlant passé et présent. Ces allers-retours sont le fil conducteur et sont d'ailleurs primordiaux pour percer à jour l'énigme. Comment s'organise un travail d'écriture comme celui-là?
Très difficile. Très très difficile. Vous savez comment j'ai fait? J'ai d'abord écrit en linéaire.
Ah oui.
Ensuite, je me suis dit, pour attirer, pour motiver surtout, le lecteur, il fallait que je trouve une scène un peu dure. Parce qu'elle est dure.
Dans le bateau, dans la...
Voilà, elle est dure. Et d'autre part, le lecteur, sachant qu'elle est prisonnière, qu'elle est ligotée, qu'elle peut rien, et qu'elle est avec le tueur dès le départ, ça crée un stress, et elle aussi, elle est dans le stress. Exactement, pour essayer de créer le même stress qu'elle.
Oui, et pourtant elle doit se remémorer.
Voilà, mais oui, mais elle le fait pourquoi? Parce qu'elle est très très stressée et elle respire de temps en temps, etc. Mais aussi, pour pouvoir, quand on est très stressé comme ça, pour pouvoir prendre de la distance, il faut penser à autre chose. Mais elle, son autre chose, va lui servir.
Parce qu'elle a peur à la fois du tueur en série, mais aussi
bateau.
Du bateau.
Voilà, du bateau, là aussi c'est quelque chose que je fais régulièrement, du bateau, et c'est vrai que dans les petits bateaux, et quand ça agite beaucoup, d'ailleurs vous avez remarqué que ça agite, parce qu'il remonte le vent, quand ça agite beaucoup, vous avez à chaque fois les objets qui tapent sur la petite coque qui est fine, Et on a toujours peur, ça je l'ai ressenti, toujours peur que le bateau se casse.
Oui, on le ressent.
Voilà, et parfois elle se demande de quoi elle a le plus peur. Du tueur en série qui est à la barre, qui donc est loin d'elle, ou bien de ce bateau qui risque de se casser. Et il y a des requins en Méditerranée.
Oui.
Donc, de quoi a-t-elle le plus peur ? On ne sait pas. Et puis en plus, il y a une tempête.
Et dans chacun des carnets d'enquête, on retrouve les personnages récurrents, Alinéa bien sûr, la grand-mère Mossa, Jacques le policier, Caro l'ami d'enfance et Kiro l'amoureux.
Oui.
En résumé, en quelques phrases, que s'est-il passé dans les deux premiers carnets ?
Dans les premiers carnets, bien, déjà, le fil rouge, c'est l'amour impossible avec Kiro. Elle, elle est gadjée, lui, il est gitan, ils s'aiment, ils sont en classe depuis la maternelle, ils s'aiment. Oui. Ils se sont déclarés leur amour en troisième. Oui, mais lui, il est gitan. Et chez les gitans, l'ethnie et les anciens jouent un rôle important. Et une gadget qui rentrerait comme ça, c'est pas possible. D'autant plus qu'il doit porter la, vous savez, sainte, la Fatima, je crois, c'est la sainte. Voilà.
Il a des responsabilités.
Voilà, il a des responsabilités, absolument. Parce que son grand-père était chef de tribu, etc. Donc, il doit prendre la suite. Mmh. Il ne peut pas épouser une gadje. Et on lui propose une fiancée gitane qui va encore agrandir la tribu. Mmh. Par conséquent, il ne peut pas refuser. Et dans l'affaire Stéphanie, il y a une rupture. Enfin, il faut lire, mais bon. Et là, il revient. Mais il est toujours là pour Alinéa. Toujours, parce qu'il aime vraiment. Et après, pour le numéro 4, il va être toujours là. Mais c'est elle qui va mener là-bas, la danse. C'est plus lui.
Ça va se renverser.
Ça va se renverser.
Dans chaque opus, vous abordez des thèmes qui touchent de près les adolescents, l'ostracisme et le racisme dans le carnet 1,
oui.
La phobie scolaire dans le carnet 2 et le conflit intergénérationnel dans ce troisième carnet. Vous définissez ces sujets toujours avant de penser l'histoire.
Oui. Oui, 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 c'est un peu ce qui me guide. J'ai une histoire dans la tête, plus ou moins, hein, mais dès le départ, je mets le thème, dans ma tête en tout cas. Et il faut qu'il arrive tout doucement. Par exemple, dans le tome 1, l'ostracisme, j'ai pris des gitans et des gadjets parce que c'est la région, mais ça peut s'envoyer partout. Hein. Et en ce moment, c'est le grand thème. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle les sociétés minoritaires, qui interviennent, etc. Dans le deuxième, la phobie scolaire, c'est parce que en faisant du théâtre, mon metteur en scène avait un enfant qui avait la phobie scolaire. Le problème, là, j'ai pris dans la phobie scolaire des parents qui veulent absolument que leur enfant réussisse, c'est un peu le cas de la maman, mais il n'y a pas que ça. Vous avez le harcèlement scolaire qui... entraîne une phobie scolaire chez
tout
le jeune.
Tout à fait.
Et c'est toujours d'actualité, hein. C'est pas, il n'y a qu'à voir,
voilà.
Il n'y a qu'à voir.
Avec les réseaux sociaux.
Absolument. Absolument. Il n'y a qu'à voir, par exemple, bon, Mila, je n'entre pas dans l'histoire politique de Mila, mais elle a été vraiment harcelée. Et elle n'est pas la seule. Il y a eu des suicides.
Oui.
À cause de ça. Voilà. Donc, je voulais quand même montrer que le harcèlement, ça peut casser une vie. Et là, justement, c'est une phobie scolaire soft, hein, parce que ce sont que les parents. Mais cet enfant ne veut plus entendre parler de l'école. Et c'est elle, Stéphanie, qui va le tirer de là, qui va le remotiver, et il va réussir.
Et là, dans ce troisième carnet, c'est le conflit intergénérationnel.
Voilà.
C'est un sujet d'actualité aussi, hein, qui mérite de s'y intéresser. À l'aube où la crise sanitaire a accentué l'opposition entre les jeunes et leurs aînés, on pense notamment à ceux qui songeaient au confinement par tranche d'âge, à contrario ceux qui reprochaient le manque de respect des plus jeunes aux gestes barrières.
Oui, absolument. Vraiment, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est dégoûtant. Et en plus, ce sont des médecins. Ce sont des gens qui sont sur les réseaux, dans les grandes télés.
Oui.
Et à redondance, en plus, qui prônent cette rupture entre les jeunes et les personnes d'un certain âge. Alors que, franchement, moi j'ai des petits-neveux, mais c'est un plaisir de les avoir. Et eux-mêmes viennent nous voir. Et c'est un plaisir d'être avec eux. Je suppose que vous devez avoir des grands-parents.
Oui.
Et donc, vous les aimez aussi, que vous avez envie de les voir. Vous n'avez pas envie de les laisser dans la cave.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ça ce qui m'a mis, qui m'a mise en colère après la sortie du livre. Parce que pour moi, c'est une évidence. Et surtout, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les sentiments des jeunes ados, eh bien, sont aussi chez les personnes âgées.
Mmh.
ils aiment, ils peuvent être amoureux, exactement comme des ados. Et d'ailleurs, à ce moment, à un moment donné, Alinéa lui dit, mais c'est pas possible. Ma grand-mère a les mêmes réflexes que moi. Et c'est vrai.
Elles vivent la même chose en même temps.
Voilà, ouais. En même temps. Et finalement, celle qui est la plus mature, c'est Alinéa. Et la grand-mère, elle y va.
La vision que vous apportez au travers de Alinéa, d'ailleurs, et sa grand-mère reflète une osmose par le lien de parenté, la passion de l'investigation partagée aussi.
Oui, aussi.
Mais
oui.
Quel est leur secret, si on pouvait le leur demander?
L'amour. L'amour filial, l'amour de sa grand-mère, mais aussi l'amour du métier, l'amour de l'investigation. Donc, je mettrai un amour avec un grand A et très large.
Dans ce troisième carnet, la grand-mère d'Alinéa, Moussa, a une vie privée elle-même intrigante, une vie amoureuse passionnelle, sa profession d'enquêtrice qu'elle ne quitte pas. Est-ce là aussi une volonté de déconstruire les préjugés concernant le troisième âge ?
Absolument.
La maturité n'exclut pas une vie bien remplie.
Absolument. Et j'ai voulu aussi montrer que Alinéa, tout en étant ado, une grande ado quand même, eh bien, peut avoir plus d'idées que sa grand-mère, peut avoir l'esprit plus large que sa grand-mère, qui, elle, a dans la bouteille au niveau du métier. Mmh. Alors, peut-être que j'ai voulu dénoncer aussi les routines. Quand on est un peu trop dans le métier, quand on est trop longtemps dans un métier, on se met sur un rituel qui peut-être peut nous arrêter.
Comment créer du lien entre les générations dans notre société ultra connectée, limite ultra déconnectée? Le vivre ensemble doit primer, mais comment faire?
Eh bien, moi, je vais vous dire, les visios, j'ai beaucoup apprécié.
Pendant le confinement, les visioconférences?
Oui. Mais même maintenant.
Ah oui.
Même maintenant, étant donné que se déplacer coûte cher, étant donné que ça coûte cher à tout le monde, les visios continuent. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, mais moi, je n'accepte pas les injures, etc. Chaque fois que je demande à un lecteur ado de m'écrire, parce que on peut aller sur mon site, monlisa.fr, et m'écrire, on peut échanger, à chaque fois, je leur dis, je ne réponds que lorsqu'il n'y a pas d'injures. Je respecte tout le monde, les jeunes comme les personnes âgées, je veux qu'on me respecte. Donc, je crois qu'il y a déjà le respect. Ensuite, les réseaux, on se retrouve dans les réseaux. Par exemple, avec la petite chroniqueuse rêveuse de livres, on a des relations tout à fait amicales, entre guillemets. C'est extraordinaire, j'adore.
Ouais.
Et je pense qu'elle aussi, parce que souvent elle demande au travail, je lui ai envoyé une vidéo, elle a eu le dernier livre a été un coup de cœur, etc. Grâce à elle, elle l'a mis au concours. J'ai trouvé ça extraordinaire. Travailler ensemble, j'ai une certaine maturité, elle a cette impétuosité que peut-être, qui me manque peut-être.
Vous vous apportez mutuellement.
Absolument. Et avec mon petit-fils, qui est jeune aussi, qui est jeune adulte, eh bien là aussi, on plaisante, on rigole, à chaque fois il me dit, mamie, faut que tu ailles un petit peu sur les sites, voilà. Et moi je lui dis, mais toi aussi, peut-être qu'il faudrait que tu ailles sur d'autres sites, etc., etc.
Oui.
Ne serait-ce que pour la musique, par exemple.
Avec le déconfinement, est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir sur un salon littéraire dans la région pour une séance de dédicace ou de signature?
Oui, absolument. D'abord, le 29 août, je serai à Loupia. Je crois que c'est l'éditeur Encre Rouge qui organise un salon. En septembre, il y a le salon Castries, au château de Castries, organisé par l'association du château de Castries et aussi avec le centre Leclerc culturel. Je serai en dédicace au centre Leclerc culturel le 11 septembre. Ensuite, il y a aussi Agora de Carcassonne qui va aussi mettre en place un salon où je serai. Et je crois même que je vais intervenir dans une conférence sur être auteur aujourd'hui.
D'accord, la suite des aventures de Alinéa et de ses compagnons de route va se poursuivre dans une quatrième enquête. Quand pourrons-nous la découvrir? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours?
Alors, je vais vous dire, d'abord, j'ai beaucoup de travail avec la charte, hein, c'est sûr. Mais on a beaucoup de travail, et puis il faut que je l'écrive aussi. Hein, et je réponds aussi quand on m'écrit. Par conséquent, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais le quatrième, qui s'appellera, sans doute, si l'éditeur l'accepte, hein, toujours le même éditeur, qui s'appellera « Le diable à marier ». Le thème général, c'est le thème des revues de mariage sur Internet ou sur papier. Mmh. Où on se lance, on se jette dans un mariage sans savoir exactement où on va. Des fois, ça peut réussir, mais des fois, c'est un thriller. Voilà, c'est encore un thriller. Et il est déjà écrit. C'est, comme je vous l'ai dit, des voyages aux Philippines. Et c'est aussi le lez. Alors là, carrément, j'ai parlé du lez, des animaux du lez, etc. Et voilà, il sortira en janvier 2022. Parce que il a été écrit il y a 5 ans. Il a été dans un tiroir. Je l'ai repris. Là, je le laisse encore dans un tiroir. Et il sortira en janvier 2022. Mais entre-temps, pour septembre 2022, j'écris la suite de Totoche et Naïs. Mmh. Et cette fois-ci, c'est chez les Gallo-Romains. Ils vont remonter le temps, ils vont aller à Arles, à Nîmes sans doute. Et aussi, ils vont visiter du côté de Narbonne. Vous avez la fameuse ferme du côté de Metz, je crois. Il y a une ferme romaine. Ils vont y aller aussi parce que ça me permet de décrire les lieux, ça me permet oui. Voilà. De mettre en valeur un peu la région aussi.
Tout ça, c'est une invitation au voyage, tous ces romans.
Oui.
Et donc, Alali et les romans précurseurs et tous vos romans sont disponibles dans toutes les librairies.
Il faut les commander parce que, justement, Ex Aequo est une édition participative, c'est-à-dire qu'elle met les livres numériques à pas cher du tout. Le plus cher, c'est 4 euros. Et puis ensuite, elle est aussi le papier. C'est un peu le livre écologique. C'est-à-dire qu'elle est contre les transports. Oui, si un libraire demande le livre, oui. Elle va l'envoyer tout de suite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de temps de délai, le temps que le transporteur l'amène. Mais elle n'accepte pas les retours, ou très peu. Pourquoi ? Parce que transport, ça fait l'aller, le retour, plus le papier, plus etc., etc. Quand on sait le nombre de livres qui sont mis au pilou, donc, elle lutte contre ça. Voilà.
Donc, c'est à la commande.
C'est à la commande. Vous pouvez le trouver, malheureusement, chez Amazon, mais aussi à la Fnac. Chez Soramp, vous pouvez le commander et vous l'avez partout. Dans toutes les librairies, parce que il est sur Dilicon, les deux logiciels des libraires.
Pour finir, comme vous vous exercez à l'art de conter au Centre Méditerranéen Langue Orale, est-ce que vous voudriez nous lire un petit passage d'Alali ?
Oui, je veux bien. Est-ce que vous acceptez que je situe le passage un petit peu ?
Bien sûr, allez-y.
Voilà. Alors, Alinéa, comme vous le savez, la détective en herbe est en première et elle enquête sur une série de meurtres. Elle soupçonne une personne de son entourage, mais elle n'a pas de preuves. Elle propose alors au tueur présumé de le retrouver chez lui dans son bateau. Malheureusement, c'est elle qui tombe dans son piège. Il la kidnappe, la ligote dans le carré du voilier. En le voyant défaire ses amarres, tous les voisins du quai accourent pour lui dire « Attention, il va y avoir une tempête ». Mais lui, très fort, dit « Non, je n'ai plus de poisson dans le frigo, je vais donc aller ailleurs ». Je lis.
Oui.
Voilà. Pois attaché au taquet de la table du carré, je tentais de me faire remarquer en me redressant, me cabrant, remuant la tête, donnant des coups contre la paroi de la banquette où ma taille était ligotée. Personne ne m'aperçut. Ils continuèrent à plaisanter, à louer le jeune homme sans peur qui promettait de braver la tempête pour rapporter quelques poissons. J'étais terrorisée. Devant mon impuissance et sa duplicité, je bouillais et pestais contre moi-même. Pourquoi m'étais-je mis dans la gueule du loup ? Que pouvais-je espérer de ce monstre ? Je poursuivis mes éprouvantes contorsions comme pour punir mon idiotie. Encore une fois, j'essayais de me faire entendre par les gens du quai. En vain. Avec souplesse, le charognard sauta à bord. Un tout sautement de moteur, une odeur de gazole. « C'est pas possible, pensai-je effrayé. Il n'en aura pas l'audace !» Oui, il l'eut. Une fumée noire, une pétarade, et nous partîmes. Debout, barre toujours entre les cuisses, le perfide saluait, riait, plaisantait à la volée avec les voisins de quai. Ce concert de raillerie, d'esclaffement et de rigolade de tout genre m'exaspérait. Comment pouvait-on être aussi hypocrite ? Un coulidaire entra dans la cabine par l'ouverture principale. Je grelottais de froid, de douleur, de peur. « Tu es naïve, La voix de ma didactive de grand-mère résonna dans ma tête. En allant sur le port, je savais que je jouais avec le feu. J'étais presque sûre qu'il était le tueur en série. Mais personne ne voulait me croire. Il fallait le prouver. Et peut-être espérais-je aussi me tromper. Là, je n'avais plus de doute. C'était bien lui, plus d'erreurs possibles.
Merci beaucoup Isabelle Lavarec d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup pour votre lecture. C'est la fin de cette émission.
C'est moi qui vous remercie.